With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, c'est une émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, on vous parle de produits culturels sympas qui nous ont plu, ce sont des films, des séries, des livres, des comics, des BD, de la musique, des jeux vidéo, et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier pour plusieurs raisons. C'est le dernier épisode de 2017, c'est aussi le 100e épisode de Positron. Et enfin, c'est a priori, si tout se passe bien, le dernier épisode avant que ne naisse mon enfant. Et donc, dans quelques semaines, alors on enregistre bien avant, mais au moment où vous entendrez cet épisode, dans quelques semaines, je serai très 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 occupé et j'aurai beaucoup de choses à faire. Et donc, je risque de devoir réduire un petit peu la voilure pendant un moment sur la production d'émissions. Et donc, je pense que Positron va connaître un petit hiatus, une petite pause. On verra combien de temps ça se prolonge. Je ne sais pas du tout combien de temps ça sera. Mais effectivement, je me suis dit que c'était un bon moment entre la fin de l'année, le 100e épisode et puis l'arrivée du bébé. Je me suis dit que c'était un bon moment pour faire une petite pause, se rafraîchir un petit peu les idées. Et puis en plus, Positron, c'est quand même une émission qui est absolument pas liée à l'actualité. Donc si vous avez besoin, si vous venez de découvrir l'émission et que vous avez besoin de plus de recommandations, eh ben vous pouvez tout à fait aller écouter les premiers épisodes. Vous en avez une centaine avec en moyenne 3 recommandations par épisode. Ça fait quand même 300 trucs à écouter, lire, regarder et apprécier. Donc voilà, pour le moment, on va dire la première saison de Positron s'interrompt avec ce 100e épisode et j'espère que vous me pardonnerez cette petite interruption, mais bon voilà, comme je le dis, il y a quand même d'autres priorités qui risquent de commencer à s'immiscer dans ma vie et évidemment je n'arrête pas les podcasts, hein, c'est juste que je dois faire certains choix dans les productions comme je suis tout seul à produire tout ça. Et on va voir comment ça se passera une fois que les choses seront un petit peu plus sur les rails. Et donc, voilà pour la petite présentation. On a quand même un épisode à faire avant de se quitter. Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai, comme je le disais dans le premier épisode de la session, le jeune et le vieux. Le vieux, c'est celui qui est déjà papa. C'est Pascal, qui connaît bien toutes ces aventures, qui a dû réduire la voilure lui aussi depuis.
Quelle lucidité, cher Patrick, quelle vision.
N'est-ce pas? Tu vois, je prépare les choses.
Tu as raison, tu as raison, c'est bien d'anticiper.
Je pense effectivement que ça sera nécessaire, au moins sur les débuts. Ça va, t'es en forme, Pascal?
Impec, j'ai hâte que ça soit Noël. Et puis, dans moins d'un mois maintenant, enfin, dans un mois à peu près, sort le nouveau Dragon Ball Z sur PS4. Et j'ai précommandé ça à Noël. J'attends avec impatience.
Très bien, très bien. Et toi, Hardisk, comment ça va? Le jeune, le YouTuber plein de dynamisme?
Eh ben écoute, ça va, hein, parce que c'est bien sympa de faire des mômes, mais bon, hein, faut faire des podcasts aussi à un moment donné, bon.
C'est bien marrant ces histoires de gamins, mais hein, ça concerne pas tout le monde.
Les couches et faire ses premières dents, c'est sympa 5 minutes, mais bon.
5 minutes, tu as exactement dit, c'est sympa 5 minutes, c'est exactement ça.
Et quand ça dure toute la nuit, comme certains en ont eu l'expérience il n'y a pas si longtemps, c'est tout de suite moins sympa. Bon, écoute. Je vais dire un truc, Pascal. Moi, en fait, j'ai la solution parfaite pour régler tous les problèmes que tout le monde peut avoir avec ses bébés.
J'achète.
Ouais.
C'est un baillon.
C'est pas ce que c'est, mais j'achète.
Non, ce n'est pas un baillon Hardisk. C'est un livre, tout simplement, qui a tous les secrets de l'éducation pour les bébés. Ce livre s'appelle Bringing Up Bébé et je pense qu'il n'est disponible qu'en anglais, donc c'est un petit peu particulier pour le recommander dans une émission en français, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un livre que j'ai trouvé hyper intéressant pour de nombreuses raisons. Mais en fait, il est disponible en français. Je me trompe. Ça s'appelle Bébé Made in France. Quels sont les secrets de notre éducation ? C'est édité chez Flammarion en 2013. Et c'est un livre absolument magique que j'ai lu il y a quelques mois quand j'ai appris qu'on était enceinte. que ma femme était enceinte.
Oui, tu fais un transfert, mais c'est pas toi au dernier.
Oui, oui, non, c'est. Mais bon, je m'inclus dans le truc, tu vois. Oui, we are pregnant, sûr. Très, très anglophile. Et c'est le seul truc que je garde des Américains dans le domaine de l'éducation et même des Anglais parce que ils ont tout raté, ils ont rien compris dans l'éducation par ailleurs. Comme le prouve ce livre de Pamela Druckmann, Bringing Up Baby ou donc Bébé Made in France. C'est en fait une journaliste, une écrivaine qui a vécu à Paris pendant plusieurs années et qui a eu plusieurs de ses enfants, d'abord une fille et puis deux jumeaux, deux garçons, à Paris. Et donc, elle a pu comparer très précisément l'éducation telle qu'elle la connaissait aux États-Unis et l'éducation, avec tous ces excès dont on entend parler, je pense souvent, et l'éducation comme on la conçoit à la française. Et c'est hyper intéressant parce que je pense que souvent, comme partout, hein, dans tous les pays du monde, les Français se disent « Ah ouais, non, nous en France, on fait trop ceci ou on fait trop cela, ou les enfants sont trop comme ci, ou les parents sont trop comme ça. » Et c'est hyper intéressant de voir le regard extérieur de cette Américaine sur l'éducation qu'on donne à nos enfants, en particulier parce que ça ressort certaines choses qui nous paraissent naturelles et évidentes, genre auxquels on ne penserait pas comme des choses positives, mais juste comme des choses normales, qui, en fait, vont pas de soi dans d'autres pays du monde et qui sont pas des acquis dans le domaine de l'éducation. Et qui sont, en fait, des choses hyper intelligentes que ne font pas du tout les Américains donc, ou même d'autres pays. Et moi, je vois ça de la Finlande aussi. Et même en Finlande, c'est pas du tout des choses qui sont considérées comme normales. Il y a des choses comme, je vais donner juste quelques exemples, l'idée du cadre, c'est-à-dire d'établir un cadre avec des limites, mais de laisser le bébé relativement libre dans ce cadre. Ça, c'est un truc que font pas du tout les Américains. Eux, ils sont très précis sur « Ah non, tu dois faire comme ci, comme ça, ou pas comme ci, ou pas comme ça ». Le fait de ne pas aller voir son bébé tout de suite quand il se met à pleurer la nuit, d'attendre de voir si c'est qu'il s'est vraiment réveillé ou juste qu'il il est au bout d'un cycle et qu'il se réveille un petit peu, mais qui va se rendormir au bout de 2 minutes. Alors évidemment, tous les bébés sont différents. Il y en a pour qui ça marche, ça marche pas. Mais d'une manière générale, les bébés font leur nuit au bout de, on va dire, 3-4 mois en France. Aux États-Unis, moi, j'ai plein d'amis qui me disent « Ah mais non, ça fait 1 an et demi, il dort toujours pas. Je suis obligé de mettre mon lit dans la chambre du bébé parce qu'il dort pas. » c'est, je sais pas, toi, à quel âge ton bébé a fait ses nuits, Pascal ?
Alors moi je vis le problème inverse, c'est qu'il a fait la petite Joanne a fait ses nuits dès le départ et nous étions très fiers et tu sais
et maintenant elle se réveille tout le temps.
Et maintenant c'est l'inverse, donc tu vois c'est comme tu disais tout à l'heure, il n'y a rien d'écrit.
Et ben en fait ensuite tu peux toujours avoir des problèmes avec tous les enfants, mais vraiment d'une manière générale les parents, le problème des parents américains c'est que dès que le bébé fait le moindre bruit, ils vont voir s'il y a quelque chose qui va pas, ils le bougent dans tous les sens et ils le réveillent. Donc forcément le bébé ne s'habitue pas lui-même à s'endormir. Donc c'est un problème tout bête, mais c'est ce genre de truc. Il y a d'autres choses qui parleront aux Français, le fait de faire goûter différents aliments aux bébés très tôt. Il y a les Américains, eux, font vraiment des trucs... ils se plaignent toujours que leurs enfants ne mangent que genre des nuggets, des pâtes et des frites, quoi. Et en fait, ça vient... il n'y a pas de secret, c'est parce que ils n'ont pas appris à leurs enfants à apprécier différents goûts. Et il faut le faire quand ils sont tout petits, parce qu'après, il y a une période où ils ne mangent plus que ce à quoi ils sont déjà habitués. Alors qu'en France, nous, on leur fait très tôt manger des choses très différentes. Et ça va dans les repas qu'on va leur donner, bien sûr, mais aussi à l'école. Et pourtant, je suis le premier à me plaindre de ma cantine de l'époque, et les choses ont changé depuis, j'imagine, mais il n'empêche qu'on a des menus très variés, etc. Enfin bref, Je vais pas vous refaire tout le livre ici, mais c'est hyper intéressant parce que si vous avez un enfant en bas âge ou si vous avez vous attendez un enfant, je comprends que ça s'adresse à une partie de la population relativement limitée, mais ça vous, même si vous êtes français, ça vous pointe du doigt et ça vous met un coup de projecteur sur les choses qu'on fait bien. Alors d'une part, moi qui suis hors de mon élément en Finlande et qui parle beaucoup à des Américains, ça c'est une sorte de petite fierté parce qu'elle dit parfois allez les Français ils font ça bien en fait et j'ai compris ça qu'au bout d'un moment donc je suis genre ouais on est super bons machin ce qui est marrant mais en plus ça c'est un livre sur l'éducation des enfants tout bêtement hein, et je suis sûr qu'il faut en lire plein, il faut prendre tous les conseils et après appliquer comme beaucoup de gens me l'ont dit à ton enfant qui va être particulier et toi tu vas savoir comment le faire pour ton enfant et tout va pas marcher et peut-être qu'il sera différent tout ça, mais il n'empêche c'est hyper intéressant de suivre tout ce qu'elle dit et en plus de ça c'est un livre qui est hyper bien écrit, c'est pas juste ah bah mon enfant il faisait ceci, j'ai vu ce que faisaient les Français et Françoise Zolto a dit cela et machin et truc. Et donc, voilà la méthode. Non, c'est écrit comme une aventure, comme son aventure, et c'est hyper drôle. Moi, je me marrais du début à la fin de ce livre. C'est très bien écrit, c'est un plaisir vraiment à lire. Moi, je l'ai lu, entre guillemets, en audiobook, et vraiment, j'ai passé un super bon moment. Et donc, je le recommande aux gens, oui, peut-être qui attendent un enfant ou qui viennent d'avoir un enfant, effectivement. Mais quand même, je pourrais le recommander à peu près n'importe qui, juste parce que c'est aussi un bon livre. Donc oui, on va
Est-ce
dire
que tu le recommanderais à moi, par exemple.
Alors, on va dire que hard disk, peut-être que c'est un petit peu en dehors.
Parle d'étalonnage à un moment, je pense que ça peut t'intéresser.
Oui, les Français.
Les Français qui aplatissent complètement les couleurs sur les photos de leurs enfants. Ah, voilà.
Et honteux.
Mais non, je pense que pour quelqu'un comme toi, si vraiment les enfants ça t'intéresse pas, bon, c'est pas forcément ton truc. Mais s'il y a des gens qui sont pas complètement hermétiques à l'idée de lire un livre sur les aventures d'une Américaine qui a des enfants à Paris, voilà, c'est ça le thème quoi. Au-delà de la valeur éducative, il y a vraiment le thème les aventures d'une Américaine à Paris. Par exemple, je suis sûr que des Américains seraient intéressés par ce truc ou des Français qui vivent ailleurs ou ce genre de choses. Donc voilà, ça s'appelle Bringing Up Bébé ou Bébé Made in France et c'est vraiment un truc qui moi m'a énormément plu. J'ai lu d'autres livres sur l'éducation des enfants, mais celui-là il est juste excellent quoi. C'est juste un très bon livre tout court. Donc voilà, c'est ma recommandation.
Moi, je me sens concerné, bien sûr, mais je pense qu'il y a un vrai problème dans la société, c'est que les enfants sont extrêmement présents dans la société de consommation. On pousse le plus longtemps possible les adultes à rester des adolescents. Enfin, j'ai encore eu des Legos à mon anniversaire à 37 ans. Et en même temps, c'est un sujet pas tabou, je dirais, mais complètement absent tant qu'on n'en a pas. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que ça devrait faire partie de l'éducation globale, d'essayer de... Je pense que élever ses enfants, comprendre comment on élève les enfants dans un pays jusqu'à plus vieux, c'est comprendre la société qu'on est en train de construire demain. Et c'est dommage d'ailleurs que ça soit toujours... C'est pour ça que je trouve que ton bouquin a l'air fabuleux. Parce que comme tu le disais, c'est plus qu'un simple livre de conseils, c'est aussi un livre à lire tout simplement. Je trouve ça intéressant d'avoir des contenus qui soient autres que juste des guides. Voilà, vous allez être jeune papa, ça vous concerne. Si vous ne voulez pas d'enfants, surtout ne le lisez pas, ça va vous ennuyer à mourir, quoi.
Bah du coup, je révise ma recommandation. Je vais dire, Hardis, c'est complètement pour toi. Il faut que tu le lises absolument.
J'adore parce que Patrick, on n'a jamais parlé de ça et il est parti du principe que ça m'intéressait absolument pas.
Ah, il a vu que tu maniais des caméras qui coûtaient une blinde dans tes vidéos et il s'est dit, c'est pas possible qu'il ait envie d'avoir un enfant qui touche à ça.
C'est, ah non, ça, c'est sûr que là, l'assurance va gueuler, je pense.
Touche pas à ma raid.
Tu touches à mon poste si tu veux, mais pour le reste, tu me fous la paix.
Du coup, je te pose la question, est-ce que ça t'intéresse, les enfants ?
ça m'intéresse, oui. Alors après, je t'avoue que j'ai d'autres passions principales.
Bah voilà.
Mais je suis pas principal concerné, si tu veux.
Alors voilà, okay.
j'ai 23 ans, je suis un début d'adulte, si tu veux, tu vois.
C'est ça, c'est pour ça que je me disais, c'est pas forcément. Et en fait, l'autre raison pour laquelle je me disais, c'est pas forcément pour toi, c'est peut-être, je vais m'accuser moi-même, c'est peut-être parce que je me revoyais à ton âge et j'avais vraiment d'autres préoccupations que de savoir si les enfants s'éduquaient de telle ou telle manière, quoi.
Mais, ah oui, donc, très voilà. Clairement. Mais après, si c'est la façon dont tu t'en parles est assez bien foutue, je trouve. Si c'est une espèce d'aventure de elle, comment elle a vécu le fait d'avoir cette double expérience de comment les Français éduquent les enfants, comment les Américains les éduquent, etc. Ça devient limite du roman, tu vois. Bon, j'imagine que c'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté un peu histoire, quoi. Mmh.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc bon bah effectivement, donc peut-être que moi j'ai péché par trop de précautions et que je pourrais le recommander à plus de monde, quoi. Bon bah parlons de d'autres choses un petit peu. Pascal, qu'est-ce que tu nous recommandes?
Alors moi en général l'hiver, je sais pas vous, mais j'ai toujours soif de voyage, et en tout cas de voyage dans des endroits où il fait beau et chaud et les gens ont l'air cool toute l'année, c'est-à-dire souvent Los Angeles. Et c'est la période de l'année où, en général, j'apprécie le plus les séries, les livres, toutes les expériences qui peuvent se passer en Californie. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est vrai que c'est une région que j'ai un peu découvert en allant me promener là-bas et j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une série qui s'appelle Harry Bosch. Alors, je vous donnerai pas le nom exact du policier parce que il porte le nom d'un peintre célèbre baroque et c'est imprononçable, qui D'accord. est adapté
Donc
des
on va
romans.
Harry l'Allemand.
Non, mais il se fait appeler Harry même dans son commissariat parce que personne n'est capable de. C'est Hieronymus ou quelque chose comme ça. Voilà, je voulais pas faire honte aux latinistes. Et donc ça s'appelle Harry Bosch. Enfin, la série s'appelle Bosch ou Harry Bosch selon les pays. Et c'est tiré des romans de Michael Connelly, qui est un grand romancier de polar aux États-Unis, très, très, très coté. Et vous avez peut-être vu, c'est un peu, comment dire, je dirais que c'est un peu comme Philip K. Dick, c'est le genre d'auteur où vous avez peut-être vu un contenu extrait ou inspiré de ses bouquins, mais sans bien connaître son travail au départ. Et j'ai la sensation qu'il a eu envie, en fait, d'avoir son propre bébé, c'est-à-dire qu'il est producteur exécutif sur la série, et on sent qu'il a mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il a voulu garder des éléments de son œuvre de départ. Alors moi, je vais vous dire, Michael Connelly, j'ai beaucoup de mal avec les livres. C'est un style américain, c'est très... comment expliquer ? C'est très âpre comme texte. Alors, on rentre ou on rentre pas dedans. Moi, j'ai toujours du mal. Je trouve ça à la fois... c'est très rigide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme Katik ou d'autres auteurs comme ça. J'aime bien quand il y a un peu la nuance française dans l'écriture. Là, c'est assez carré, assez rigide. Et pourtant, j'ai redécouvert donc ces personnages et ces intrigues dans la série. C'est Amazon qui produit ça. Ça fait partie des premières séries qu'Amazon a produites avec le maître du Haut Château, qui est de Philip K. Dick. Et c'est pour ça, vous allez voir, je pense qu'ils ont essayé de toucher des auteurs comme ça, très populaires, mais qui étaient capables d'exploser à l'international à travers le contenu, le médium série. Et donc voilà, donc vous allez suivre les aventures d'Harry Bosch, qui est un flic enquêteur détective, comme on dit là-bas, à Los Angeles. Et ce sont des enquêtes sur une saison. Alors actuellement, il y a trois saisons. A priori, il y en aurait une quatrième. Et c'est tiré des bouquins. Donc vous allez voir sa vie.
Excuse-moi, il n'y a rien de fantastique. C'est pas comme le...
Non, non.
D'accord.
Non, non, c'est très, très concret. J'ai envie de te dire, si vous avez vu Sur Écoute, je ne sais pas si tu connais The Wire, Sur Écoute.
Oui, alors là,
pas l'avoir vu, tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, non, bien sûr, il y a plein de gens qui l'ont pas vu, mais je veux dire, je suis pris de convulsion quand on me parle de The Wire, tellement j'adore cette série. Enfin,
alors, complètement raté.
Ah,
mon Dieu.
Ah non, mais Hardisk, il y a un truc.
Runner 2049, The Wire, va falloir t'accrocher.
Non mais
c'est fabuleux The Wire, mais il faut tenir le rythme, quoi. C'est
un
incroyable.
Petit peu, mais enfin tu vois c'est faut rentrer dedans. Mais si on parle de bébés, de l'amour des bébés, machin, tout ça, à la limite tu peux me dire non mais les bébés on s'en fout, on les passe au mixeur, c'est ça prend de la place, machin. Je pourrais t'excuser. Mais ne pas avoir vu The Wire.
Mais The Wire.
Ah ouais, non mais c'est important de connaître The Wire quand tu es quand tu apprécies le média vidéo. Donc il y a deux séries
qui sont, je suis sûr que c'est très bien,
qui sont fantastiques.
Parler, mais...
C'est The Wire et Friday Night Lights.
Ah, et... Attends, c'est quoi Friday Night Lights en français? Ça s'est traduit comment?
Tu connais pas Friday Night
Lights? La soirée de vendredi. De...
La soirée lumineuse du vendredi.
En français, ils ont traduit ça comment? En anglais, ça me dit.
Alors écoute, je sais pas du tout, mais je suis même pas sûr. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est une série sur un alors. Excuse-moi, je hijack ta
non, c'est pas grave, au contraire.
Mais j'ai dû déjà en parler de Friday Night Lights. C'est une série qui est la plus improbable du monde pour un quelqu'un comme moi. C'est une série sur une petite ville américaine et leur équipe de football américain de lycée.
D'accord.
Et tu vois, déjà, tu dis ça. Tu me dis ça, je commence à faire marche arrière. Tu sais, je recule petit à petit, je marche à reculons, genre. Ok, on va pas voir que je me suis barré. C'est pas pour moi, quoi. C'est franchement l'une des meilleures séries de l'histoire. Elle est extra et je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas refaire la recommandation. Mais Friday Night Lights, ça évoque chez les gens qui l'aiment le même type d'amour que The Wire.
C'est... Ah bah The Wire. Il y a pas de honte à avoir ses nanars préférés. Hein.
Non mais alors on va pas.
Attends, c'est quoi, Patrick? Je vais plonger dans le trou avec toi. Moi, je trouve qu'une des meilleures séries qui en termes d'écriture qui ait jamais été faite, c'est Gossip Girl. Tu vois.
Alors attends.
C'est dire.
Alors. Gossip Girl,
t'aurais dit
bien.
Grey's Anatomy, je sais que t'aurais marqué des points. Gossip Girl, je sais pas si tu regardes, Patrick.
Oh, j'ai regardé 3-4 saisons, j'ai bien aimé. Ou peut-être 2-3, je sais plus. Mais Gossip Girl, t'aimes bien, même si c'est un petit peu couillon. Friday Night Lights, c'est juste vraiment bien. C'est une bonne série, c'est comme The Wire, c'est comme... c'est une bonne série.
Il y a même pas un aspect... c'est pas du couillon enveloppé dans une belle écriture, quoi.
Non, c'est juste bien. Il y a, c'est émouvant, c'est touchant, c'est bien écrit. Il y a la saison 2 est rentrée de plein fouet dans la grève des scénaristes du milieu des années 2000. Donc il y a un truc. Ça devient vraiment débile et faut passer la saison 2. En plus, elle s'interrompt à la moitié. Enfin, il y a 4-5 saisons et c'est. Enfin bon, je vais pas repartir dessus, mais oui, Friday Night Lights, c'est très très bien. The Wire aussi. Et donc Harry Bosch.
Ah. Alors Harry Bosch, ça pourrait te plaire parce que pour moi c'est Michael Connelly, il a un peu le même parcours que David Simon, l'auteur de The Wire, c'est-à-dire qu'il a été journaliste et chroniqueur judiciaire avant d'écrire. Donc en fait, il a une approche très documentée, très très journalistique du métier d'enquêteur. Et en fait, je dirais que t'as le côté Los Angeles, c'est-à-dire le côté plus cool, tu vois, on va manger des tacos ou des trucs comme ça pendant l'enquête. Ce qui est, moi, tu verras, Hardisk, si tu regardes
Maximor... Si ils mangent des tacos pendant l'enquête, c'est qu'ils sont quand même vachement cool.
Ah ouais, non, mais tu verras, si tu regardes The Wire, c'est pas du tout la même ambiance. Hein.
C'est sûr.
C'est maussade, du début jusqu'à la fin, alors que là ça reste Los Angeles, tu vois, donc c'est des enquêtes à Beverly Hills, à Hollywood, et ça n'empêche que c'est vraiment une très bonne série parce que, comme je vous le disais avant, on retrouve beaucoup de comédiens de The Wire, donc c'est pour ça que je pense que le rapprochement n'est pas faux. Je pense que ça, ils s'en sont inspirés en tout cas dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est une enquête, une saison, et c'est très agréable de voir une vraie partie des États-Unis dans un cadre idyllique qui est Los Angeles, traité de manière sérieuse, parce qu'hélas, souvent, j'ai remarqué, Los Angeles dans les séries américaines, c'est souvent fun, c'est des filles en roller.
Ça ressemble tellement pas à la vérité.
Il y a un côté, souvent dans les séries, il y a un petit côté GTA V, il y a un côté un peu folklorique, ouais. Et là, on est vraiment dans l'approche la plus sordide au soleil, tu vois. Je sais pas comment expliquer, quoi. C'est beau, mais c'est glauque, mais c'est beau en même temps. C'est esthétiquement glauque.
Pour que ce soit réaliste de Los Angeles, c'est simple. Est-ce que dedans, il y a des nanas précaires en pantalon de yoga?
Oh là, tu as des femmes qui font du SM sur chatroulette et des trucs comme ça, quoi. C'est très.
Ok, on est sur du réel.
Et tu as du white mask. Enfin, je connais pas toutes les marques, mais tu vois, c'est. Tu retrouves un côté réaliste de la ville et les enquêtes sont bien en plus parce que bon, comme c'est des polars au départ, il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Hein. C'est pas le truc où tu vois venir le mec à l'avance dès le départ. Bonjour, ouais. C'est moi. Vous allez avoir deux faux indices et puis vous allez retomber sur moi à la fin de l'épisode. C'est vraiment, ça suit. Et j'ai envie de te dire, même si l'enquête te passionne pas, t'as quand même plaisir à voir le personnage d'Harry Bosch qui est un, je pense, le prototype du policier de Los Angeles, c'est-à-dire qu'il est riche parce qu'il a eu la chance de co-écrire un scénario et d'être consultant sur un film qui a cartonné. Donc, il a une baraque magnifique qui donne vue sur Los Angeles. Et en même temps, il a un boulot de détective classique. Et ça, c'est un côté très américain. Les flics ont beaucoup de... c'est souvent peu traité, mais les flics là-bas peuvent avoir des métiers à côté. Et souvent, ils peuvent être très riches pour certaines choses et en même temps rester des policiers classiques. Et puis on va voir aussi son rapport avec sa famille, son ex, sa fille. Et là, pareil, pas de cliché, c'est un personnage très réaliste et un passé triste puisque sa mère s'est fait assassiner, elle était prostituée.
Non mais ne raconte pas, enfin.
Non mais là, je te décris le background du personnage, tu vois.
Et c'est donc à ce moment-là qu'on se rend compte que voilà, c'était sa sœur et c'est incroyable, quoi.
non, ça c'est le personnage. Et je vous dis, c'est un personnage très épais et je pense que... Si vous avez aimé The Wire, vous retrouverez peut-être pas, ça va pas jusqu'au bout comme The Wire, mais en tout cas, vous verrez une partie de Los Angeles traitée comme dans The Wire, c'est-à-dire les journalistes, la politique, les hiérarchies, les rapports de force, la lutte des classes dans la ville, etc., etc. Toutes ces parties-là font partie de l'ensemble de l'enquête. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Il y a plusieurs intrigues. Mais je te conseille The Wire, hein. Franchement, essaye de voir ça. Et si t'as pas le courage, tente Bosch, ça sera peut-être beaucoup plus digeste.
Non, mais je vais rajouter au nombre de trucs que je dois regarder dans le métro quand je vais au bureau le matin. Et j'ai littéralement une liste de trucs, de films et de séries en retard où tout le monde me dit que je suis largué, que je n'ai pas vu et que je regarde dans le métro comme ça.
Ah bah, je sais pas ce que
tu
en penses.
Tu pourras ajouter ça à ta liste. Ah bah, The Wire c'est dans ça. Le métro, je suis pas sûr. Hein. The Wire, ah ouais, c'est plutôt métro. Tranquillou dans ton canap. Hein.
Ouais.
Mais bon. Écoute, justement, puisque tu nous viens de la planète YouTube, tu veux nous parler un petit peu plus de chaînes intéressantes, c'est ce que j'ai compris quand
tout
je vois les notes
fait.
De l'émission.
C'est ça, tout à fait. J'ai moi-même mes petites notes. J'ai envie de vous parler, moi, de chaînes YouTube qui sont des chaînes YouTube anglophones, parce que je regarde pratiquement que du YouTube anglophone, même encore maintenant. Et c'est des chaînes, en fait, qui n'ont pas forcément une très grande audience, mais qui parlent de sujets un peu chelous, mais qui sont super passionnants, même pour des gens qui ne sont pas forcément fans de base. Je veux parler de trois chaînes. La première, c'est Disney Research Hub, qui est donc le centre de recherche et développement de Disney. Et sur cette chaîne, en fait, ils font une explication en vidéo de tous leurs derniers white papers. Donc en gros, c'est des papiers de recherche scientifique. Ça peut paraître un peu lourdingue comme ça, mais en fait, c'est là où Disney va expliquer toutes les dernières technologies qu'ils développent en matière principalement d'image, mais aussi en matière de interagir avec des objets en réalité augmentée. Enfin, on se rend compte que voilà, une des dernières vidéos de la chaîne, c'était il y a 3 jours, c'est une technologie qui permet de sentir au toucher des fireworks. Je suis cette espèce de bilingue qui oublie des mots français, c'est horrible. je me déteste. Voilà, de sentir des feux d'artifice avec les mains, enfin c'est des techniques un peu comme ça, un peu chelou. C'est des technologies qui vont ou se retrouver dans l'animation. On parle par exemple de comment est-ce qu'ils font pour faire de la neige photoréaliste en 3D, mais également des trucs qu'on peut retrouver dans leur parc d'attractions, comme voilà des espèces de trucs pour interagir avec des robots, des machins. Il y a plein de trucs différents. Et c'est hyper intéressant de voir où va la technologie de l'image, de la robotique, etc. du point de vue de Disney. Voilà, c'est assez intéressant. Les vidéos durent 1 à 3 minutes en général. C'est assez visuel et c'est assez facile à comprendre et c'est assez curieux. C'est le mot que j'utiliserai, c'est assez curieux. Donc il y a cette chaîne-là. Il y a Captain Disillusion qui lui analyse des effets spéciaux de vidéos fake. Le mec fait ça depuis littéralement 2006-2007 sur YouTube. Il prend des vidéos virales que tout le monde se partage par mail. sur Facebook, etc. Et il les démonte une par une, tous, de manière assez bien foutue. Il va même jusqu'à s'intégrer dans les vidéos parfois. Et puis, il va te montrer comment est-ce qu'ils ont truqué des vidéos où t'as quelqu'un qui va, par exemple, taper une balle de baseball à l'infini pendant 25 coups parfaitement, ou des vidéos virales que même nous, on a pu voir tourner à l'époque. Et c'est super intéressant parce que c'est vraiment très bien foutu, il va vraiment en profondeur. Et moi, ça, voilà, ça m'amuse beaucoup de regarder ça. Et puis, un petit
et
dernier
du coup,
que j'ai découvert.
Attends, sur Captain Disillusion, est-ce qu'il a déjà fait le coup de prouver qu'une vraie vidéo était fausse? Genre, prendre une vidéo qui existait, qui était réelle, et de dire, ah, mais regardez, bien sûr, là, quand on a ça et ici et ça là, ça montre bien que c'est une. Tu sais, moi, je pars là-dessus, automatiquement parce que. Je parle beaucoup de politique, notamment dans mon émission de Phileas Club en anglais. Et on a aujourd'hui, on vit dans un monde où personne ne croit à rien et où on peut faire de quelque chose de vrai, on peut en faire un mensonge et vice versa. Et du coup, tout de suite, quand tu me parles de ça, moi, je pars dans l'autre sens où là, on se dit ah bah oui, ça va nous apprendre à bien voir quelles vidéos sont vraies et quelles vidéos sont fausses. Et donc, je me dis, est-ce que on peut ces univers sont pas tellement mélangés qu'on pourrait pas dire ah bah oui mais regarde.
Écoute,
là aussi,
le bonhomme est assez rigolo, ça se voit quand vous regardez rapidement la chaîne, et je pense que c'est pas impossible qu'il ait fait un 1er avril ou une connerie dans le genre. D'accord. Avec une vraie vidéo où il a lui-même rajouté des conneries dedans qui débunk lui-même. Ce serait
non, ou alors
c'est
juste
une
vraie vidéo, tu vois, moi ça
oui,
quoi,
ou juste une
vraie
vidéo,
juste
une vraie
vidéo,
ouais.
Enfin bon, bref.
C'est
pardon
pas impossible.
Pour l'interruption.
Mais... Non mais t'as bien fait. C'est pas impossible. Et puis la dernière, qui est un petit dernier que j'ai découvert il y a pas si longtemps et je me suis tapé la chaîne entière, c'est Austin McConnell. Qui est un jeune réalisateur qui est typique, le petit mec qui fait ses petits courts-métrages dans des festivals, etc. Et puis, il s'est intéressé à YouTube et à ce qu'il pouvait faire dessus. Il parle donc de réalisation vidéo, mais pas que. Il fait aussi des vidéos humoristiques et super bien rythmées. Vraiment, il se passe un truc toutes les secondes, notamment une qui s'appelle « Que faire si votre parachute ne s'ouvre pas ?» qui était en top de Reddit il y a quelques jours encore. Et il a fait plein de petites vidéos à la con comme ça, donc c'est assez compliqué de décrire le thème de sa chaîne, parce que de base le mec c'est un jeune réal, mais en même temps il te fait des petits concepts, si tu veux, comme ça, qui sont tous différents les uns des autres, qui sont très courts et très rythmés et très très bien foutus, et moi j'accroche beaucoup.
Ah bah dis-moi, ça fait de quoi s'alimenter, effectivement. Donc trois
voilà.
Chaînes YouTube pour le prix d'une, très très bien. C'est des chaînes, alors c'est en anglais, mais ça a l'air quand même assez sympathique, donc merci beaucoup pour ces recommandations Hardisk. Et ça nous amène à la fin de cet épisode qui conclut un petit peu la saison de Positron avec ce 100e épisode. Je suis un petit peu ému, mais en même temps un petit peu fatigué, je vous avoue. Donc, on va arriver à la fin et avant... Enfin, je dis c'est la fin, mais je continue les autres podcasts quand même. Donc et Positron reviendra un moment. Mais je veux dire, bref, voilà, c'est l'épisode 100. Donc, pour se quitter, encore une fois, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver. On va commencer par Hardisk.
Eh bien, écoute, vous pouvez me retrouver sur twitter.com/Hardisk, c'est H-A-R-D-I-S-K, et sur youtube.com.
Hardisk. C'est ça?
Hardisk. Non, c'est juste que j'arrive plus à parler. Tu sais, on a enregistré 25 000 épisodes. Patrick nous a enfermés dans sa cave. Moi, je ne peux plus parler. et youtube.com/Hardisk, H-A-R-D-I-S-K aussi, où je fais des vidéos deux fois par semaine.
Magnifique. Merci beaucoup. Pascal, à ton tour.
Ah bah pardon, excusez-moi. Eh bah, vous pouvez me retrouver à peu près sur tous les réseaux sociaux Pascal Mabi, et sinon sur ma chaîne YouTube Imprograph, au moins une fois par mois, j'improvise un dessin sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit.
Très bien, merci beaucoup Pascal. Les liens des deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Vous retrouverez aussi l'adresse frenchspin.fr, qui est le site sur lequel j'héberge mes productions podcastiques. Vous pourrez par exemple aller écouter le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu, qui couvre l'actualité tech et l'actualité jeux vidéo en alternance toutes les deux semaines, donc un par semaine. C'est des émissions fort sympathiques qui vous permettent de vous informer en vous amusant et en faisant autre chose, hein, comme tous les podcasts. Il y a aussi Upload, qui est une émission où on recommande des applications mobiles. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter ou Facebook sous le nom NotePatrick. Voilà, c'est facile à retrouver. Je suis NotePatrick Patrick un petit peu partout. Et vous pouvez aller me dire, me faire des bisous, par exemple, sur Twitter. J'apprécie les preuves d'affection, quelles qu'elles soient, quand elles sont sincères. Donc, vous pouvez me dire bonjour et me dire si vous avez apprécié ces 100 premiers épisodes de Positron. Ça serait sympathique d'entendre de vos retours. Donc, je dis pas on revient dans 15 jours, parce que je sais pas quand on reviendra, mais je vous fais quand même à tous énormément de bisous. Et à l'heure où, où vous entendrez cet épisode, je pense que je vais aller commencer à préparer la valise. Comment elle s'appelle, Pascal ? La valise de...
Ah oui, bonne question, j'ai déjà oublié.
Bon, la valise qu'on doit emmener à l'hôpital, voilà, c'est
la
ça.
La valise d'urgence.
La valise d'urgence. Bon, on vous fait des bisous à tous et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Oh.